En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Ou le brin de l'avarice. L'image habituelle qui est faite de cette culture et de ces hommes peut nous en faire douter. C'était peut-être une gageure, mais j'ai essayé de voir si les Hittites voyaient la vie en couleur, et le cas échéant, quelle couleur. Tout en relisant les textes hittites que je n'avais jamais lus dans cette optique, je me suis aussi plongée dans la lecture d'auteurs divers, dont Michel Pastoureau, incontournable historien de la couleur. Bien m'en a pris. En effet, il incite celui qui s'attaque à la question des couleurs à la prudence. La couleur, dit-il, n'est pas seulement un phénomène physique et perceptif, c'est aussi une construction culturelle complexe, rebelle à toute généralisation, sinon à toute analyse. La couleur est d'abord un fait de société. Il n'y a pas de vérité transculturelle de la couleur. Fin de citation. C'est la société qui fait la couleur, qui lui donne ses définitions et son sens, qui construit ses codes et ses valeurs, qui organise ses pratiques et détermine ses enjeux. Donc tout document, qu'il s'agisse d'images ou de textes, est à utiliser avec prudence, car il donne de la réalité un témoignage spécifique. D'autres difficultés, d'ordre épistémologique, attendent le chercheur. Il faut se méfier de tout raisonnement anachronique. Pastoureau le rappelle, je le cite, « Les notions de couleur, chaude ou froide, de couleur primaire ou complémentaire, les classements du spectre ou du cercle chromatique, les lois de la perception ou du contraste simultané ne sont pas des vérités éternelles, mais seulement des étapes dans l'histoire mouvante des savoirs. » Fin de citation. Sur quel document travailler ? Je n'ai pas d'image à montrer. Mais la couleur est, je crois, par essence, un terrain transdocumentaire et transdisciplinaire. J'ai choisi celui du lexique. Ici, comme ailleurs, l'histoire des mots apporte à notre connaissance du passé des informations nombreuses et pertinentes. Dans le domaine de la couleur, elle souligne combien, dans toute société, la fonction première de celle-ci est de classer, de marquer, de proclamer, d'associer ou d'opposer. À l'intérieur du lexique, j'ai fait un autre choix méthodologique. Il faut savoir que dans nos textes, on rencontre, outre le hittite proprement dit, le hatti, le louvite, le hourite, le sumérien, l'acadien. Les scribes avaient recours à une sorte de sténographie créée en milieu babylonien, d'où, pour raccourcir la notation d'un mot, l'utilisation à l'intérieur d'un même texte, soit du mot hittite, soit d'un acadogramme, soit d'un sumérogramme, ces deux derniers pouvant être accompagnés de compléments phonétiques. Mais le terme était censé être lu en hittite. Voici une phrase qui évoque des couleurs. Pour différencier les langues, nous avons l'habitude de noter le hittite en minuscule, le sumérien en capitale romaine et l'acadien en capitale italique. Et vous voyez que les termes de couleur sont ici des sumérogrammes. Mais il nous est souvent difficile d'établir les équations linguistiques entre sumérogrammes, acadogrammes et phonétisme hittite, parfois transcription, parfois calque, parfois équivalence. On est donc non seulement face à la question de la traduction des concepts, mais aussi et surtout à celle de leur transposition. Parfois, on ne sait pas quel mot hittite se cache derrière le sumérogramme ou l'acadogramme. J'ai donc choisi de ne prendre en compte que les mots hittites, ou louvite ou palaïte, les deux autres langues indo-européennes de l'Anatolie. Et étant donné le temps dont je dispose, je n'ai retenu, sauf une exception, que des adjectifs. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, deux remarques. Contrairement au contenu de mon titre, je ne me suis pas contentée des rituels, ce corpus m'a paru insuffisant pour mettre en lumière la richesse des termes. Et j'ai choisi de ne pas ou très peu travailler sur la fonction des couleurs, mais j'avoue qu'au moment où j'ai proposé ce titre, je ne savais absolument pas ce que j'allais découvrir. Alors, le blanc en a trois termes. Un terme générique, Asara, qui correspond au sumérien babar, argent. Le deuxième, rien de particulier à dire dessus. Kassi, le deuxième, est un adjectif qui signifie aussi blanc, mais ce n'est pas un synonyme du précédent. D'une part, il peut alterner avec le précédent dans les listes, et d'autre part, il marque une nuance. Pour la saisir, et on peut se référer au terme latin « canus » qui lui est apparenté, « canus » c'est « casno ». « Canus » renvoie aussi bien au blanc de la neige qu'au gris de la cendre. Les dérivés de cette racine présentent, suivant leur suffixe, deux sens, marquant tantôt la couleur, tantôt l'idée de vieillesse en latin. Le rapport couleur-âge est essentiel pour la compréhension du sens de canus. L'intermédiaire en est de toute évidence, les nuances successives que prennent les cheveux de l'âge mûr à la vieillesse, allant du gris, pensons au français grisonné, au blanc. C'est pourquoi Canus signifie gris-blanc, même si pour nous le gris est une teinte qui participe non du blanc, mais du noir. Ce qu'on peut noter ici à propos de notre terme, c'est que la couleur ne nous parvient pas dans un état d'intégrité tel que la science le conçoit. C'est un état instable et même plus précisément un état en devenir. Le blanc peut devenir du gris avec le temps. Les emplois du troisième terme, harki, sont beaucoup plus variés. C'est une épithète de pin, il décrit la croupe d'un cheval, le blanc des yeux dans les textes médicaux et bien entendu la laine. Dans sa prière à l'Éloigny, en faveur de Gasuli Yahouia, le roi Mursili II s'adresse à la déesse l'Éloigny, qui est la déesse soleil de la terre héritée des Hattis par les Hittites, afin que son épouse, la princesse Gasuli Yahouia, guérisse de la maladie qui l'accable. En voici un extrait. Si, ô Dieu, mon maître, tu ne cesses de rechercher quelque méchanceté de la princesse, voici que à toi je l'ai envoyée toute parée. À côté de moi, elle est bonne, elle est propre, pure, elle est étincelante, elle est immaculée, elle est soignée à tout point de vue. Aussi, ô Dieu, mon maître, garde-la bien en face et que la femme que voici se tourne face au Dieu, mon maître, une fois de plus, tourne-toi avec bonté vers la princesse et guéris-la de cette maladie. Dans un autre texte, on retrouve les trois mêmes adjectifs à propos d'un mouton prêt à être sacrifié. Un exemple intéressant est l'expression que j'ai indiquée en dessous, « harki haral », qui est traduit généralement par « végétation claire » ou, comme le suggère Pouvel, « buisson avec des fleurs blanches ». Mais je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Haral, c'est la jeune pousse du printemps, celle qui vient de naître et qui est lumineuse, d'un vert clair lumineux. Il en est de même de l'expression suivante, « Ramesri harki », traduit habituellement par « au printemps blanc », « blanc harki ». En fait, l'adjectif désigne cette nouvelle lumière du printemps. L'étymologie, qui semble certaine, est intéressante. « Harki » renvoie à une racine proto-indo-européenne, « arg », qui signifie « blanc, brillant, rapide ». Pensons au grec « argiodon », aux dents blanches, « argipous », aux dieux, aux pieds agiles, c'est l'épithète du divin Achille dans l'Iliade, mais aussi à Argos, brillant, rapide, à Arguros, l'argent, et bien sûr le latin argentum. Donc trois traits dominent ici, l'idée d'apparition, d'advenir, hein, éphémère, rapide, la couleur lumineuse, la blancheur immaculée, qui est le résultat d'une transformation, alors dans le contexte de notre prière, à la suite d'une opération de nettoyage. Parkoui, hein, le terme pour pur propre, c'est la propreté matérielle, condition essentielle pour atteindre la sacralité, la propreté transcendante qui est rendue par soupi. Donc ce que décrit l'adjectif, hein, c'est le résultat d'un processus. Et si le printemps et la végétation peuvent être qualifiés de harki, c'est l'idée que la renaissance donne un éclat et une lumière particulière. Pour bleu, nous n'avons qu'un terme, antara, qui est le terme générique et qui est en général peu employé, c'est le sumérogramme qui est employé. Et c'est le seul adjectif pour bleu que j'ai trouvé. Noir, trois termes également. Markouai, qui est le terme générique et qui est employé assez régulièrement, mais en particulier comme épithète de divinité. Alors en hittite, Dingirmesh Markouaias ou en louvite, Dirginmesh Marwainzi. Ce sont les dieux noirs. Ces divinités font partie du cercle de Iyari, sans doute identique aux dieux babyloniens de la peste et de la guerre Héra. Dankui, beaucoup plus intéressant, sombre épithète au sombre noir et l'épithète de la terre, Dankuias Daganzipas, la terre noire, c'est-à-dire le monde souterrain. Alors la traduction par noir ne rend absolument pas la richesse du terme. Là encore, la racine nous est d'une grande aide. Elle signifie sombre, brumeux, nébli, c'est-à-dire, et nous donne des termes dans différentes langues qui indiquent humide, moite, qui dégage de la vapeur. Alors qu'est-ce que le monde souterrain pour les Hittites? Pour eux, l'univers est organisé en trois zones superposées, le ciel, la terre et le monde souterrain. C'est par des voies d'eau divinisées qu'on accède à ce monde souterrain où habitaient de nombreuses divinités infernales. C'est là que les sources, les rivières, si importantes dans les cultes et les rituels hittites, trouvent leur origine. Dans un certain nombre de mythes, que ce soit des mythes hittites, avec le dragon Iluyanka qui vit dans une caverne souterraine, ou le monstre Harima, ou des mythes védiques avec Vritra, ces monstres bloquent les eaux. Le brouillard et les ténèbres, voire un brouillard ténébreux, leur sont associés le plus souvent et constituent leurs armes. Vritra est qualifié de fils du brouillard qu'il répand, et c'est Indra qui dispersera les brouillards ténébreux. Le récit hittite qui nous raconte les méfaits de Rarima, gel, a pour objet le même Brumale Frigus, accompagné d'intempéries, de gel, de lumière ténébreuse et la paralysie qui s'ensuit. Dans l'Iliade, Homère nous proposera la même vision. Au chant 15, Poséidon explique, je cite le passage, « Le monde a été partagé en trois, chacun a eu son apanage. J'ai obtenu pour moi, après tirage au sort, d'habiter la blanche mer à jamais. Hadès a eu pour l'ombre brumeuse. » Zeus, le vaste ciel, en plein éther, en plein nuage. L'ombre brumeuse, Zophon, Aeruenta. Donc, Dankui, c'est à la fois une couleur et une sensation, l'humidité. Mais surtout, le terme décrit un état intermédiaire, pas complètement noir, hein, c'est la pénombre. Et ni sec, ni mouillé, hein, c'est le brouillard humide. Alors, qu'en est-il du troisième, Nanankusiyant, qu'on traduit aussi, en général, par sombre, ténébreux. C'est un terme à redoublement et nous allons en rencontrer plusieurs. Je rappelle que le redoublement est un procédé de dérivation permettant de créer des variantes connotées, subjectives, expressives d'un terme de départ. Et ce n'est pas un hasard si nos termes de couleur sont souvent des termes à redoublement. J'y reviendrai. Ce qui caractérise ce terme, c'est l'absence de lumière. Relisons le début du mythe de Télébinou et la fille de l'océan. Il y a longtemps, lorsque le grand océan, lacune, et le ciel, la terre et l'humanité, lacune, l'océan entra en querelle, probablement parce qu'il n'est pas content du lot qu'il a reçu en partage, et emporta en bas le dieu soleil du ciel et le dissimula. Et le mal s'installa dans le pays, l'obscurité s'installa. Nanankusdi. Alors c'est vrai que c'est le verbe, mais il veut dire très précisément devenir sombre, noir, et il est en relation avec Neku, le soir. Donc cet adjectif, qui est en fait le participe du verbe, signifie « assombri », la lumière ayant disparu. Ce n'est pas la nuit en hittite c'est « ispanza voilà. ». Et il s'oppose à « lalukiwan » dont je parlerai tout à l'heure, et je vous ai mis un extrait où il s'oppose devant lui à propos du soleil, qu'il soit sombre, mais devant toi, qu'il soit clair, lumineux. Si on résume, on voit bien que les trois adjectifs ne sont pas synonymes. Dankui, sombre en couleur, noir et humide, brumeux. La terre noire, mais aussi le noir des yeux, en référence aux pupilles, et il s'oppose là à Arki. Marwai, ce sont des épithètes des divinités chthoniennes, soit sombres de leur habitat infernal, ou noirs de leur teinte noire. Dankui décrit des lieux sombres, brumeux, et des objets qui sont noirs en soi, alors que Nanankusiyant ne dénote jamais la couleur noire, uniquement l'absence de lumière, ou plutôt la disparition de la lumière. Alors, rouge. Le terme usuel est mita, qui correspond au sumérogramme sassin qu'on trouve majoritairement dans les textes. Il est toujours lié à la laine. Et il peut même être d'ailleurs utilisé comme substantif et signifier laine rouge. C'est un terme générique, mais de manière assez curieuse, c'est un emprunt, probablement un mot méditerranéen. Et de manière curieuse également, c'est un des seuls qui ne correspond pas à un métal. En effet, dans le monde hittite et louvite, la plupart des noms de métaux sont des adjectifs de couleur substantivés. Par exemple, j'ai parlé de Dankui, en louvite cunéiforme, Dankul, l'étain, c'est le sombre. Mita, au contraire, est un terme donc emprunté, puisqu'on le trouve en mycénien, mitowessa, qui signifie pain en rouge à propos de chariot. Le grec a miltos, qui désigne une teinture rouge d'origine minérale. Une première particularité qu'on peut noter dans l'utilisation du terme, dans les plus anciens textes, seul le sumérogramme est utilisé. C'est à partir du moyen hittite qu'on peut trouver la graphie phonétique du mot. Cela nous rappelle l'impact que l'histoire matérielle a sur notre rapport aux couleurs. Il faut être attentif aux disponibilités des pigments et des colorants. Lorsque les relations avec le monde méditerranéen de l'Anatolie, avec le monde méditerranéen se sont intensifiées, il y a eu probablement échange de marchandises, découverte de techniques étrangères, circulation des matières colorantes. La deuxième particularité, c'est que le terme est employé pour des vêtements. C'est le cas de le rouge nergal, que je vous ai indiqué, puisque c'est sa robe rouge. Mais pour décrire aussi l'ivoire, qui peut être soit blanche, soit rouge dans les textes. On trouve aussi, alors le sumérogramme, cette fois pour décrire des contenants ou de la nourriture qui manifestement ne sont pas rouges. Les peaux d'animaux peuvent aussi être qualifiées avec cet adjectif. Il semblerait donc que cet adjectif couvre une section du spectre, une palette allant du brun au rouge. Le fleuve Marasantia, le Kidzil Irmark, est graphié le fleuve rouge et son nom actuel signifie toujours fleuve rouge. Il tire probablement son nom de la couleur de ses os qui charrient des oxydes de fer, donc jaune, brun, rouillé à brun, rouge. L'autre adjectif, je ne m'y attarderai pas, est limpide, esrarwand, rouge sang. C'est un adjectif qui est fait sur esrar, le sang, qui est assez peu employé. Le lexique est donc, de manière curieuse, assez pauvre. Peu de mots, une utilisation majoritaire du sumérogramme. En revanche, des fonctions, un symbolisme sans doute assez riche et très varié. Très rapidement, c'est la seule fois que je vais parler sans doute de fonctions. Melkert pense que dans le rituel de Pascuati, qui est un rituel destiné à rendre la virilité à un homme, l'association de la laine rouge et blanche symboliserait l'acte sexuel réussi. Dans le deuxième texte, le rituel d'évocation, on essaye d'attirer des dieux ennemis en pays hittite. Et Dumézil, qui a fait de très rares incursions dans le domaine anatolien, a commenté en 1945, je crois, ce passage, en disant que l'association de la laine blanche, rouge et bleue est certainement un souvenir de la tripartition fonctionnelle des Indo-Européens et des couleurs donc, qui leur sont associées, le blanc pour les prêtres, le rouge pour les guerriers et le bleu pour les agriculteurs et éleveurs. Cela dit, on trouve des associations différentes dans d'autres textes. Et enfin, troisième exemple, c'est un rituel qui est destiné à resacraliser un lieu qui a été souillé et on utilise de la laine rouge. Et là, de manière beaucoup plus pragmatique, René Lebrun, qui a commenté ce passage, explique qu'en fait, si on utilise la laine rouge, c'est parce que la couleur est voyante et donc le dieu ne peut pas manquer de la voir et va donc revenir. Alors, si je passe au vert, j'ai retenu le premier terme, quoique ce ne soit pas un adjectif, mais il va me permettre de mieux spécifier le deuxième. Alors, on le trouve utilisé dans un passage emblématique du grand rituel de fondation d'un palais. « Au trône, à moi le roi, tu as apporté de la mer le char royal. On m'a ouvert le pays de ma mère et l'on m'a appelé roi Labarna. Je célèbre de nouveau mon père, le dieu de l'orage. Moi, le roi, je demande au dieu de l'orage les arbres que les pluies ont fortifiés, qu'ils ont fait grandir. Sous le ciel, vous avez verdoyé. Le lion couché dessous, la panthère couché près de vous, mais l'ours grimpé à vous, etc. » Dans ce chant aux arbres, donc le roi célèbre d'abord le dieu de l'orage qui a fait pousser les arbres et il s'adresse ensuite aux arbres lui-même. Ici, les arbres que le roi veut utiliser pour la construction de son palais sont une image défigurée de l'arbre cosmique. Le symbolisme en est clair, on utilise pour la construction d'un palais qui se trouve nécessairement au centre du monde, des arbres incarnant l'arbre cosmique qui lui aussi est par excellence au centre du monde. Et le palais apparaît ainsi comme une évocation de l'arbre cosmique dont il possède les caractères essentiels, lien entre ciel et terre, force vitale, éternité. Donc dans les autres attestations du verbe, on retrouve la même chose. Ce n'est pas tellement la couleur qui est importante que la notion de croissance, de vigueur, de force vitale. Ce ne sont pas les mêmes traits qui caractérisent le suivant, harli, vert jaune, ou une forme suffixée, haraluwant. Encore une forme à redoublement, comme vous pouvez voir. Vert printemps jaune, c'est l'épithète de la lune, qui évidemment n'est pas verte, c'est le terme qu'on utilise pour la jaunisse, c'est l'adjectif qui a donné le nom haral, la jeune pousse verte du printemps dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors Rim Schneider expliquait qu'à la base, on a probablement un terme botanique ou dendrologique plutôt que la désignation d'une couleur. D'ailleurs, les mots apparentés dans d'autres langues indo-européennes vont bien dans ce sens. Le grec « chloé » signifie « la verdure nouvelle »,« la pousse nouvelle ». C'est l'épithète d'ailleurs de Déméter. « Chloézo », être jaune-vert, mais surtout « germer », être d'un vert tendre, comme les jeunes pousses. S'y rattache également « colos », »,« collé », »,« la bile ». Selon Chantraine, ces termes appartiennent à un vaste groupe qui se ramène mal à l'unité, la difficulté étant de cerner une signification première. Éclat, couleur, jaune-vert, vitalité. Je pense qu'il n'y a pas de signification première. Le terme signifie une transformation de couleur avec le temps. Il y a quelques termes qui ne sont pas à proprement dit des termes de couleur, en tout cas selon notre point de vue, mais que je rattache néanmoins au terme de couleur. Tout d'abord, Misri, Misriwant, qu'on traduit habituellement par resplendissant, très beau. Cela peut être l'épithète d'une femme, d'un combat, également Zarais, premier exemple que j'ai mis, ou d'un mouton qu'on offre en sacrifice. Le sens premier, à mon avis, n'est pas beau, mais d'une blancheur luisante. Et le rattachement à la racine indo-européenne est très intéressant. La racine signifie « vaciller, cligner ». Donc Misri ou Misriwand ne se réfère pas à une source de lumière, comme par exemple la lune ou le soleil, mais définit seulement une lumière réfléchie ou visible. Ce qui caractérise ce terme, ce sont les traits lumière, étincelant, clinquant, et selon la racine, qui éclaire par intermittence, un peu comme un phare qui doit attirer l'attention des navires. La brillance comme caractéristique visuelle de la surface. Dans la prière de Mursili à l'Éloigny, que j'ai déjà citée tout à l'heure, il y est, dans la phrase donc, que j'ai soulignée, elle est propre, elle est étincelante, j'ai parlé de ce terme tout à l'heure, elle est immaculée, c'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, excusez-moi, je me suis trompée pour le gras, et elle est étincelante, attirante, Misriwanza. Donc c'est par cette brillance qu'elle va attirer l'attention du dieu. Si on prend le rituel, quand on tire les dieux sur les chemins, les dieux sont partis, on essaye de les faire revenir. Et ils doivent rentrer par les 7 chemins cosmiques, les hautes montagnes, les profondes vallées, la mer, les rivières, les sources, le ciel et la terre. Ces chemins sont fabriqués par le devin à l'aide de rubans ou de laine. Pour faire revenir par exemple les dieux mâles du cèdre, le devin place des rubans sur le chemin, répand de la purée ou de l'huile et il leur indique que c'est là qu'ils doivent marcher pour que la verdure ne touche pas leurs pieds, que les pierres ne heurtent pas leurs pieds, que les montagnes se nivellent, que les rivières fassent un pont à leur passage. Et il les invite en disant, je cite, « Entrez au pays hittite qui est en ordre, propre, par coup, beau et étincelant, accueillant, attirant. » Donc c'est ce terme « Misriwanta ». C'est toujours l'idée, vous voyez, d'attirer le dieu par du brillant, par du clinquant. Et enfin, le dernier terme, c'est l'Alukiwan, que j'ai déjà mentionné comme antonyme de « Nanakusiyant ». Encore un adjectif à redoublement, issu de la racine bien connue « look », qui a donné « look », c'est contient la notion de lumière. Et on traduit en général par « brillant, lumineux ». Mais soyons plus précis. « Look », c'est « faire jour ». Là, il y a un verbe « look »,« faire jour » en hittite. Et le verbe se réfère plus précisément au petit jour avant le lever du soleil, au moment où le jour, la lumière apparaît. Lorsqu'il est transitif, le verbe signifie d'ailleurs « allumer, incendier ». Il a donc une valeur incoative. C'est pourquoi l'adjectif s'oppose à Nanakusiyant qu'on a vu tout à l'heure. C'est la lumière qui disparaît avec le soir qui tombe. Alors au début de ma présentation, je me demandais si les Hittites voyaient le monde en couleur. Et quelle couleur? L'étude du lexique m'a permis de constater l'existence d'un monde coloré, paraissant différent du nôtre, caractérisé par une prédominance de la lumière et du mouvement sur la couleur. Finalement, qu'est-ce que la couleur pour un Hittite? Quelle catégorie les couleurs font-elles apparaître? Les couleurs sont des actions de la lumière, écrivait Goethe dans sa théorie des couleurs. Pour nous, toute couleur visible peut commodément se définir par 3 caractéristiques. La teinte, c'est la propriété de la couleur déterminée par la longueur d'onde de la lumière qui frappe l'objet considéré, c'est le bleu, le vert, le jaune. La saturation, l'intensité, la pureté, et la clarté, la luminance, la luminosité, le fonçage. Pour un Hittite, la couleur a affaire avec d'autres catégories. Parfois même, le trait couleur est à l'arrière-plan. Ainsi, un certain nombre de termes, certains blancs, certains noirs, que nous sommes tentés de faire entrer dans la catégorie des couleurs, décrivent-ils plutôt des phénomènes de luminosité et de mouvement que de couleurs, et sont directement liés à des phénomènes naturels. Ainsi, la disparition de la lumière qui caractérise Nanakusiyant réfère au soir qui tombe. Inversement, le caractère lumineux de la Lukiwand renvoie à la lumière qui apparaît le matin. Le terme « harli » rend l'idée du cycle végétal entier, de la jeune plante verte jusqu'à la plante desséchée, jaune. Cette instabilité sémantique est à l'image d'un phénomène instable présent dans la nature et non la catégorie des couleurs allant du jaune au vert. Et les réactions à ces états étaient intenses, comme pourraient le démontrer les redoublements expressifs qui sont à l'origine d'un certain nombre de termes utilisés. Nous voyons donc que nos termes de couleurs, en plus de traits sémantiques, sont affectés de traits aspectuels. Cassis, gris blanchâtre et harli, jaune vert, sont des progressifs. Ils décrivent un processus, la transformation d'un état en un autre. Harki, immaculé, est un terminatif. Il décrit le résultat d'un processus, dans le processus de nettoyage dans certains contextes. Nanakusiyant et l'Alukiwand sont des incoatifs. L'obscurité advient, le jour se lève. Misriwant est de l'ordre du jaillissement, c'est ce qu'on appelle un duplicatif intermittent. Pour Oulili, j'ai signalé que le trait couleur verte était à l'arrière-plan, ce qui domine, c'est l'idée de croissance. Finalement, Nous sommes bien loin de la conception newtonienne des couleurs. Le monde lumineux et en mouvement des Hittites ressemble assez à la conception goethéenne des couleurs. Le grand reproche que Goethe faisait à Newton, c'est d'avoir cherché l'essence des couleurs. Pour Goethe, les couleurs ne sont pas, mais apparaissent. Non pas essence, mais naissance des couleurs. Les couleurs sont événements. Elles surgissent, surviennent, se manifestent, disparaissent. Tel est le programme goethéen, tel est le monde des couleurs que nous laisse entrevoir la littérature hittite. Je vous remercie.
Merci beaucoup de nous avoir en quelque sorte offert une introduction au sujet, en même temps que un aperçu sur le monde des Hittites. Vous nous avez rappelé un certain nombre de principes très généraux qui vont nous servir pour la suite de la réflexion. Et en même temps, vous nous avez initié au pouvoir magique des couleurs et surtout des jeux de lumière. Et naturellement, nous sommes tout prêts à nous laisser charmer comme ces dieux qu'on essaye d'attirer par les couleurs. Alors, comme vous avez été tout à fait ponctuel au point de vue de l'horaire, nous avons le temps peut-être d'une ou deux questions. Donc, qui souhaiterait poser une question ? Madame, s'il vous plaît.
Oui, merci. Je voulais, donc vous avez traité du lexique de la couleur qui m'intéresse beaucoup dans le cas du Japon. Est-ce qu'il y a des mots en hittite pour désigner la couleur elle-même comme concept ?
Non, je n'en ai pas trouvé.
C'est très intéressant.
Certainement. Alors, je ne suis pas allée plus loin que chercher le terme couleur. Et peut-être qu'il faudrait chercher si j'ai un terme qui engloberait, par exemple, soit couleur, soit mouvement, soit luminosité. Non, je n'en ai pas trouvé. Et je dois dire ici, j'avais choisi aussi de ne prendre que les adjectifs. Il aurait fallu chacun de ces adjectifs est associé à un verbe, etc. Mais je n'en ai pas trouvé. Mais bon, le problème aussi en hittite, nous n'avons pas des millions de textes. Donc, et très souvent, l'autre problème, c'est que j'ai parfois un sumérogramme, c'est ce que je disais, mais je ne connais pas le mot hittite qu'il y a derrière. Et dans certains cas, par exemple, quand j'ai babar, a priori, c'est le terme générique, systématiquement, mais on a un cas où il y a un complément phonétique en i. Donc, ça ne peut pas être le terme asara qui est derrière. Peut-être arki. Donc, vous voyez, j'ai souvent été gênée, donc j'ai éliminé assez systématiquement tous ces cas de figure. Donc, je n'ai pas trouvé, mais bon, il faudra que j'explore davantage.
Peut-être encore une autre question, M. Brabito.
Je suis dans une autre catégorie, mais ça fait partie du symbole des couleurs. Est-ce que, dans le monde il y a un mot pour noir?
Il est possible que ce soit le premier terme que j'ai mentionné et que les divinités noires que j'ai mentionnées soient... Enfin, on hésite. Elles sont noires parce qu'elles habitent dans le monde souterrain, mais le monde souterrain n'est pas Markouaï, ou est-ce qu'elles sont noires de peau ? Et peut-être. En même temps, j'ai un petit peu des doutes parce que ce sont des divinités typiquement louvites. Donc, ça m'étonnerait qu'elle soit noire de peau. En revanche, elle pouvait être peinte. Ça, c'est tout à fait possible. Les statues étaient peut-être peintes. Mais là, dans le monde hittite...
Le noir est toujours associé à une idée de sombre, de sombre, sous-terre.
Non.
Ah,
c'est pas forcément négatif parce que ça n'est pas connoté positivement ou négativement. D'ailleurs, le monde souterrain n'est pas négatif chez les Hittites puisque c'est là que naissent les sources. Ça n'est pas un monde négatif, bien au contraire. Ça n'est pas un monde, ça n'est pas connoté négativement. Mais par exemple, non, le mot, par exemple, d'Ankoui, hein, qu'on traduit en général par noir, s'il qualifie le noir des yeux, c'est parce que les yeux sont humides. Donc, non, pour noir, non, autrement ça. Alors, peut-être, si, un terme que je l'ai mis dans le tableau, mais je ne l'ai pas étudié parce qu'il est très problématique et on n'a quasiment aucune attestation, c'est Ranzana, qui peut-être correspondrait à ce que vous dites. Mais j'ai trouvé très très peu d'attestations. Un autre terme que je n'ai pas mentionné ici, qui est Ranzana, mais qui est vraiment très très problématique. Mais en tout cas, ça n'est pas connoté. Ça, là, j'insiste là-dessus, ça n'est pas connoté positivement ou négativement. Et les connotations, si on veut les appeler, mais ce n'est pas exactement des connotations, en tout cas pour Ankoui, c'est l'humidité, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, ça n'est pas noir, c'est la pénombre, hein, c'est l'entre-deux, ça n'est pas noir.
Très bien, Monsieur Dancer.
Oui, je voulais juste vous poser une question. En tant que non-spécialiste d'ailleurs, est-ce que vous avez comparé le vocabulaire concernant les couleurs aux traces de couleurs qui restent éventuellement dans l'art hittite, est-ce qu'il y a une possibilité de faire une comparaison?
Non, je vous réponds immédiatement non, en tout cas pas pour la période des textes. Non, on a vraiment. On a finalement pour la période précédente, à la Djaluyuk ou des Kadachataluyuk, où là on pourrait éventuellement, mais alors pour la période hittite proprement dite, non, absolument pas. Enfin, j'ai regardé rapidement, hein, je dois dire, je n'ai pas cherché. Voilà. Et alors, j'ai été tellement, je suis pas traumatisée, mais presque par toutes les mises en garde de Pastoureau, que je suis restée très très prudente. Voilà. Mais non, enfin, j'ai quand même regardé rapidement ce qu'on a. Bon, j'ai vu ce qu'il y avait en Turquie, à Ankara, à Istanbul. Je crois que le peu qu'il y a ne m'aurait de toute façon pas permis de faire des commentaires dessus, de toute façon.
Voilà. Merci beaucoup.